ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Mathieu de Bénin, le président de Financière de Courcelles, et Arnaud Lefebvre, directeur territorial entreprise d'Arkéa Banque. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christophe Duré-Lénarès. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes le président de La Rochette Carton Board. Dites-nous, vous êtes né en 68, c'est à Lyon.
Oui.
Voilà. Après, donc, vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez passé 20 ans dans l'industrie des matériaux de construction. Placoplâtre, c'était une belle aventure. C'est là que vous êtes dit, le management, maintenant, je comprends.
Oui, c'est peut-être un peu ça. Oui. J'ai commencé par les parois, par les cloisons, et puis après, je suis passé sur les plafonds. Et effectivement, l'école des matériaux de construction était une très, très bonne école de management. C'était ma passion. Et c'est toujours ma passion.
Armstrong, c'était une belle aventure aussi?
Oui, d'autant qu'elle m'a mené en Angleterre pour détourer une partie du business de l'entreprise pour la revendre à un fonds. Voilà.
Et aujourd'hui, donc racontez-nous cette belle entreprise, hein, La Rochette, vous l'avez rejointe il n'y a pas très longtemps.
Oui, il y a bientôt 2 ans.
Voilà. Elle a fêté l'an passé, c'est 150 ans.
Voilà.
Deux anniversaires, quoi.
Oui, 150 ans, toujours au même endroit, à La Rochette, village.
Alors c'est où La Rochette?
En Savoie. Voilà, entre Chambéry et Grenoble. Voilà. Pour faire simple.
Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs et puis les métiers.
Cette année, on va faire à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 290 collaborateurs. Et nous sommes un fabricant de carton pour boîtes pliantes à base de fibres vierges. Donc, si vous avez un mal de tête, vous allez acheter du paracétamol. Je ne donnerai pas le nom d'une marque très connue en France. Et il y a des grandes chances pour que ça soit notre carton. Et puis, si vous mangez des pâtes italiennes, ça peut être aussi notre carton.
Et alors, tous ces gens qui veulent remplacer le plastique par du carton, c'est génial pour vous, non?
Ah oui, tout à fait.
C'est possible ou pas?
C'est possible pour une partie des applications. Ça va impliquer aussi du développement et de la R&D pour les cartons. Tout le marché et tous les fabricants sont sur ce sujet-là. Deux grands défis, c'est la barrière à la graisse, pour pas que ça vous tâche, ou alors c'est le carton pour les produits surgelés, pour enlever cette petite poche plastique qu'il y a dans les cartons actuellement, pour se passer de cette poche plastique. Donc ça, c'est deux thèmes assez importants, et c'est un marché qui structurellement va avoir de la croissance pendant encore plusieurs années, entre 4 et 5% de croissance. Oui.
Et tout ça, vous avez un département recherche et développement, comment vous faites pour améliorer et...
Eh bien, nous sommes une petite entreprise, donc nous avons une personne. Et Laura, que je salue au passage.
On la salue.
Voilà, donc.
Et elle bosse.
Mais voilà, donc elle travaille avec une équipe et puis on travaille avec des intervenants extérieurs. Donc nous, on est sur l'industrie papier-carton avec, par exemple, le Centre technique du papier, le CTP à Grenoble, qui est un organisme qui travaille, sur la recherche et développement et qui aide les entreprises comme les nôtres à trouver des solutions aux problèmes tels que ceux que je viens d'évoquer sur la barrière à la graisse.
Et vous avez combien de clients? Parce qu'en fait, vous pouvez bosser avec tous les industriels qui existent dans le monde entier, non?
Oui. Mais alors après, on est un industriel français, donc on l'a dit, depuis 150 ans ici, on a une grosse part de marché en France, on fait à peu près 50% de notre business en France, mais le nombre de clients en tant que tel n'est pas énorme, on est une grosse centaine de clients, c'est un marché qui s'est structuré, nos clients sont des imprimeurs qui vont prendre nos cartons, les imprimer, les former et puis les préparer pour les transformer en boîtes pliantes qui seront livrées après à des géants de la pharmacie ou de l'agroalimentaire qui travaillent sur des très très grandes séries.
Et aujourd'hui, au niveau collaborateur, quel est le type, le profil des gens qui vous rejoignent? Est-ce que il y a une pénurie de talent, comme on dit?
Alors, on est en plein dedans, effectivement. Ce que j'aime dans cette entreprise, c'est qu'elle a croisé un peu de tous les problèmes qu'on retrouve, qu'on affronte actuellement dans une industrie. Et celui du recrutement des collaborateurs est un vrai problème. On manque d'ingénieurs. C'est bien de vouloir réindustrialiser la France, mais il fallait former les ingénieurs avant d'y penser. Donc aujourd'hui, très, très difficile de trouver un ingénieur. Et j'incite, moi, les jeunes à aller dans l'industrie. Vous trouverez du boulot et vous serez très, très bien payé. Mais on a aussi du mal à trouver des gens dans la maintenance, des chaudronniers, des électromécaniciens.
C'est
l'ensemble des métiers. Oui.
Parce qu'ingénieur, on en a quand même pas mal. Du côté de Grenoble, par là-bas, il y a des bonnes écoles. Quoi.
Oui, et notamment dans le domaine de la papeterie du carton, il y a Pagora, qui est l'école en France de la papeterie du carton. Et nous avons dans nos effectifs 3 ingénieurs Pagora, par exemple.
Et donc, ça veut dire s'il y avait une promo avec 20% de plus, ils pourraient trouver du boulot, selon vous?
Ah, mais complètement. Et nous, on fait un gros travail, notamment pour prendre des alternants de cette école-là pour qu'ils deviennent après des collaborateurs.
Mathieu?
Bravo d'abord pour cette belle réussite, cette belle entreprise. Moi, j'avais une première question. J'imagine que les normes européennes sont de plus en plus strictes.
Oui.
Alors, comment vous faites ? Quelles recommandations vous donneriez, en fait ?
Eh ben, on se débrouille. Alors, d'abord, il faut voir les choses positives. On peut se dire que les normes, effectivement, nous protègent aussi le marché européen. Il y a notamment une norme qui est en train de se mettre en place et qui est un règlement qui s'appelle le RDUE, un règlement sur la déforestation de l'Union européenne, qui va nous imposer de mettre en place une traçabilité à partir du 1er janvier 2025 pour prendre une image que tout le monde comprendra. Aujourd'hui, quand vous achetez un steak haché au supermarché, vous savez de quelle vache ça vient. Eh bien, demain, quand vous achèterez un produit avec son carton, vous devrez savoir de quel arbre cela vient, que ça soit un arbre en France, en Amérique latine ou les choses comme ça. Donc là, on a besoin de s'organiser. Moi, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont déjà très spécialisées sur cette approche. La traçabilité, c'est quelque chose qui est déjà très très important et qui nous est déjà demandé par le marché. On parlait tout à l'heure de l'agroalimentaire. La traçabilité, c'est extrêmement important. Mais là-dessus aussi, on attend à ce que l'Europe nous donne les moyens et aujourd'hui, par exemple, là-dessus, ils sont un peu short, on va dire, sur les outils pour pouvoir répondre à leur réglementation. Donc, on accepte, ça va nous protéger, mais il faut qu'aussi l'Europe nous défende parce que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, ça c'est clair. Ouais.
Mathieu ?
Alors, je voulais savoir aussi, est-ce que votre industrie est touchée par l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous, dans votre groupe, vous l'utilisez et est-ce qu'elle vous aide ?
Alors, pas beaucoup aujourd'hui, sans doute pas suffisamment, mais on va développer des programmes là-dessus. Nous, on est une vieille entreprise et on a des très très vieilles machines. On a des machines des années 30 et des années 50.
Ah oui.
Et l'enjeu pour...
Il n'y a pas plus moderne comme machine, elles font le boulot.
Ah ben, il y a plus moderne, mais allez, donnez-moi le chèque de 200 millions.
Et très bien, ETI Radio, tous les auditeurs, vous donnez le chèque de 100 000 euros.
L'intelligence artificielle me dit 200 millions tout de suite, donc là, j'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour ça. Mais oui, effectivement, mais... Donc oui, mais ça va nous aider, et notamment pour améliorer nos process. Ça va nous aider aussi pour mieux travailler avec nos clients, puisque nous, l'idée, c'est aussi d'avoir cette intimité avec le client pour vraiment comprendre ce qu'il va faire de nos produits. Et là-dessus, je pense que ça va nous aider. Mais on n'en est qu'au tout début dans notre industrie, c'est clair.
D'accord. Et alors, j'imagine que vos matières premières, il y a des fluctuations énormes. Comment vous faites pour gérer...
En termes de prix d'achat, tu voulais dire ?
Prix d'achat, oui. Comment vous gérez finalement tous ces flux et ces changements de prix vis-à-vis de vos clients, par exemple ?
Alors, nous, on a deux enjeux sur les matières premières. Il y a ce qu'on appelle la pâte chimique qui complémente la pâte mécanique qu'on fabrique nous-mêmes. Et la pâte mécanique, c'est on la fabrique à partir des connexes des scieries et on va les récolter sur un groupe de 40 scieries qui sont autour de notre usine. Et là-dessus, on travaille avec des partenariats. Ça fait 40 ans qu'on travaille avec eux.
Avec les mêmes scieries.
Simplement avec les mêmes scieries. Donc, on est un acteur très local et on travaille localement. Donc, mais on a les contraintes, effectivement, de la compétition, par exemple, d'autres industriels qui ont acheté le bois. Et donc là, c'est une vraie problématique. Alors, la problématique, c'est d'améliorer d'abord notre productivité sur laquelle on travaille tous les jours, d'avoir ces partenariats longs, c'est-à-dire que nos scieurs, on va les voir, et quand c'est difficile, on les aide. Et quand c'est difficile pour eux aussi, on les aide. C'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Et puis, c'est de trouver de nouvelles recettes pour nos produits pour réduire effectivement cet impact. Mais la plus grosse difficulté, c'est pas les matières premières, c'était l'énergie, comme beaucoup d'industries ces dernières années.
Et que votre prix de revient, par exemple, depuis 2 ans, depuis 3 ans, il a été augmenté de combien ?
Il a été augmenté fortement, voilà.
On va dire on est à 20%, 30%.
Oui. L'énergie, on a pris même 50% à un moment, hein. Donc l'énergie fait une défluctuation énorme.
Mathieu,
la croissance externe dans votre développement, vous en avez fait ces dernières années ?
Alors, nous, on est une petite entreprise. Donc, quand je parle de croissance externe, ça sera la croissance de la vente. Hein. Mais la croissance externe en termes de M&A, non. Nous, on est le résultat d'un détourage d'un groupe italien qui nous a revendu à un fonds. D'accord. Donc, on n'est pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Mais on le sera peut-être dans le futur. Mais aujourd'hui, pas du tout.
Arnaud ?
Oui, bonjour. J'avais une question. On parlait tout à l'heure donc d'évolutions récentes, enfin notamment, enfin la pression réglementaire. Mmh. et l'évolution où on remplace le plastique par du carton, ce qui vous est plutôt favorable. Est-ce que vous anticipez justement d'autres changements, en fait, notamment, je pense, au vrac, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, qui, pour le coup, pourrait peut-être avoir un impact pour vous, et savoir comment vous réagissez par rapport à ça.
Bonne question.
Alors, c'est clair, et puis je dirais, moi je suis un citoyen comme les autres, et quand je vois ce que je mets au recyclage, c'est énorme, que ce soit d'ailleurs du carton, du plastique, enfin tous les produits du recyclage. Donc le vrac est effectivement une approche qu'il faut envisager en tant que citoyen et qui constitue un danger pour mon industrie à terme. Mais pour moi, il y a deux choses. D'abord, un, il y a ma taille sur mon marché. Moi, je suis un petit intervenant sur mon marché, je suis un challenger et donc je vais mordre les talons et les chevilles de mes concurrents.
Les grands, c'est quoi? C'est les Irlandais?
Alors les grands, ce sont des Scandinaves, ce sont des Finlandais, voilà, du nord de l'Europe. Donc voilà, donc moi j'ai déjà un potentiel de marché, voilà, je suis plus petit, donc je suis plus dynamique et je peux vraiment aller chercher d'autres solutions. Et puis après, il y a des choses qui apparaissent. Donc, on va peut-être perdre sur certaines parties du business, mais on va reprendre sur d'autres parties du business. Il reste quand même que, même quand vous allez sur du vrac, quand vous ne mangez pas chez vous, il y a de moins en moins de gens qui mangent chez eux, de plus en plus de gens qui ramènent parce qu'ils n'ont pas mangé au restaurant. Hein, donc, des choses comme ça. C'est donc sur des applications comme ça qu'on va aussi se développer.
Et peut-être des innovations digitales, non? J'imagine peut-être sur de connaître par des QR codes, par exemple, ou parce qu'un des enjeux pour les industriels, c'est aussi de connaître leurs clients finaux, ce qui est toujours le cas.
Oui, oui.
Est-ce que pour vous, justement, ça peut être un relais d'avoir de rajouter en fait une brique digitale dans votre activité pour justement répondre à ce besoin des industriels?
Alors, aujourd'hui, notre produit est beaucoup transformé après qu'on l'ait fabriqué nous-mêmes. Hein,
donc, oui, à la limite, c'est peut-être à eux de...
Ça sera plus nos clients, voire les clients de nos clients qui vont aller là-dessus, ça c'est clair.
En tout cas, ils vous aident également à évoluer, quoi.
Oui, complètement.
Christophe, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une belle ETI comme la vôtre ou alors travailler dans le siloche?
D'abord, un, c'est la plus belle boîte du monde, la boîte dans laquelle je travaille, sinon ça ne sert à rien. Et puis le Cinoche, ben non, j'ai pas pu y travailler, mais mon fils y travaille.
C'est vrai.
Voilà, il y a une transmission quand même.
Et La Rochette, dans 150 ans, ça donne quoi? Parce qu'on a fêté 150 ans, il en reste 150 à venir.
La Rochette, dans 150 ans, ben, on aura peut-être fait le M&A dont on parlait.
Grâce à qui? Grâce à Mathieu. Merci beaucoup Christophe, merci également à vous Mathieu et Arnaud, fans de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez les actualités sur les comptes LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précis, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.